que de la musique. Ce ne sera rien, rien que des mots, des mots. Des mots, comme à la radio. Ça ne dérangera pas, ça n'empêchera pas de jouer aux cartes. Ça n'empêchera pas de dormir sur l'autoroute. Ça n'empêchera pas de parler d'argent. Ce sera tout à fait comme à la radio.
Radio Pleine Lune, 93.8 MHz, onde femme, Radio Zone. Le remue-ménage s'est calmé, la lune est dans vos oreilles, dans ce ciel noir, eh bien, elle éclate, elle rutile, elle étincelle sur 93.8 MHz, onde femme, Radio Zone. Dans quelques instants, nos nouvelles. Bonsoir, Radio Pleine Lune 93.8 MHz, onde femme, Radio Zone, nos nouvelles. Et pour commencer, nous souhaitons envoyer un grand bonjour, un grand bonsoir plutôt, à nos amis séquestrés de la police fédérale et du ministère de la Confédération, Carla Del Ponte, et plus spécialement à notre ami détenu à la prison de Bois-Mermet à Lausanne, s'il nous écoute, un grand, grand bonsoir. Et vous annoncez également que malheureusement, le tribunal fédéral vient de rejeter sa demande de mise en liberté provisoire. Nous en saurons plus quand le tribunal fédéral fera part de ses objections à cette mise en liberté. Nous en reparlerons donc, mais en attendant, bonsoir notre ami. Tout de suite, nos nouvelles. En Chine, la longue marche de celles qu'on appelle les cadettes au turban. En Chine, de plus en plus de femmes travaillent. Pour les journaux chinois, ce sont les nouvelles héroïnes, non plus de la construction du socialisme, mais cette fois-ci de la construction de l'économie. Voici comment les journaux chinois parlent de ces jeunes travailleuses qu'on appelle familièrement les cadettes au turban, qui forment un nouveau groupe social. La plupart sont originaires des petits villages perdus dans la campagne. Elles ont été amenées par vagues successives sur les plages avancées de ce qu'on appelle l'économie socialiste de marché. Actuellement, ces jeunes travailleuses, salariées dans les entreprises ou femmes de ménage dans les foyers citadins, sont déjà des millions. Ce type de transfert de ressources constitue un progrès significatif dans la structure de l'économie mixte traditionnelle, disent les journaux chinois. L'augmentation de la richesse globale de la société en profite. L'éducation également, par le contact direct avec l'économie de marché, qui améliore très sensiblement la qualité des individus. Cette évolution, d'après les journaux chinois, non seulement contribue à la libération de la femme, mais également une influence, je cite, sur l'amélioration de l'espèce. Une partie de celles qui sont rentrées au village forment des groupes de jeunes filles modèles de la région. Elles font le serment de revenir tôt ou tard d'ailleurs au village afin d'en transformer les habitudes périmées. Alors qu'elles suent sang et eau, les cadettes au turban offrent dans un même élan toute leur force et leur volonté à la construction de l'économie nationale. Fin de citation. Vous voyez comment les journaux chinois en parlent. La réalité, bien sûr, est un peu différente. Car la plupart de ces jeunes femmes se font escroquer dès la descente du train. On les dépouille souvent de leur argent de poche et lorsqu'elles arrivent péniblement près de la zone économique, le contenu de leur porte-monnaie s'est déjà envolé. Les jeunes filles inexpérimentées se retrouvent ainsi à quai, livrées à la faim et au froid, condamnées à trouver du travail par tous les moyens. Elles vont bien sûr à l'usine où, par exemple, on y travaille 10 heures par jour pour 300 yuan, c'est-à-dire 180 francs français par mois. L'entreprise prend en charge le logement, la nourriture, mais la discipline est très stricte. 16 francs d'amende par minute de retard, 10 autres pour un mot de trop pendant le service et suppression de la prime mensuelle pour un défaut de fabrication. Et si le contremaître aperçoit une fille qui se détend un peu, il n'hésite pas à la tirer par les cheveux et à la battre. Nous jouons au chat et à la souris avec lui, dit une des ouvrières. Dans une autre usine, une autre femme a vu tout son salaire s'envoler en fumée. Des nombreuses entreprises à capitaux mixtes se servent de la situation précaire de ces jeunes travailleuses pour les recruter illégalement sans garantie de salaire ni respect aucun pour la personne. Ainsi, dans le district de Nanahai, dans une usine de jouets en peluche, lorsque le travail n'est pas terminé à temps, on confisque la carte d'identité avec en prime 30 francs d'amende. Comme vous voyez, le parcours de la femme chinoise n'est pas tout à fait aussi rose que les journaux chinois le prétendent. Toujours en Chine, discriminée par l'état civil. Pour éviter une migration massive des gens des campagnes vers les villes, les autorités chinoises contrôlent scrupuleusement la population depuis les années 50 avec l'instauration d'un système d'enregistrement et de maintien des personnes dans leur lieu d'origine. Même si celui-ci s'est quelque peu libéralisé aujourd'hui, les détenteurs d'une carte de résident rural ne bénéficient pas des mêmes avantages que leur homologue citadin. C'est le cas notamment pour les inscriptions dans les écoles, l'emploi et le mariage. Il est impossible pour une paysanne, même mariée à un citadin, et pour les enfants nés de leur union, d'obtenir le même statut que le chef de famille, d'où une série de discriminations à l'égard de ses enfants. En instaurant un rapport nord-sud à l'intérieur du pays, le gouvernement cherche à dissuader les jeunes chinoises nées à la campagne de venir s'installer en ville. À Singapour, une nouvelle espèce aussi fleurie, celle des businesswomen. Avec une idée bien elle, en comptant sur ses propres forces, la femme d'affaires de Singapour réussit et d'abord quelqu'un d'autonome. Singapour comptait dans le recensement de 1990 quelques 32 600 femmes propriétaires d'entreprises. La businesswoman de Singapour a 41 ans en moyenne. Elle a toutes les chances d'être mariée, d'avoir deux enfants et jongle donc entre affaires et responsabilités. Leur motivation a été d'autant plus forte lorsqu'il y avait la nécessité de subvenir aux besoins de la famille, car de près de la moitié de ces femmes à la tête d'une entreprise florissante. Une large majorité de ces femmes ont puisé dans leur économie personnelle pour lancer leur entreprise. Ça pourrait traduire la difficulté d'obtenir les capitaux initiaux auprès des sources classiques de financement telles que les banques, et elles se méfient toujours de ces femmes pas ordinaires. Produire autrement, la Banque mondiale mise sur les femmes. Elles sont plus productives, remboursent ponctuellement, réinvestissent. Les établissements d'aide au développement se rendent à l'évidence. Il est plus efficace de prêter de l'argent aux femmes. Les grandes agences de développement et les banques multilatérales de Washington sont persuadées que les femmes tiennent un rôle bien plus déterminant que les hommes dans la lutte contre la misère. Elles financent donc de plus en plus de petites entreprises et exploitations agricoles tenues par les femmes. Certaines institutions comme la Banque mondiale, la Bird, et ainsi que l'Association internationale pour le développement, l'AID, et la Banque interaméricaine de développement font en effet davantage confiance aux femmes qui remboursent mieux leurs emprunts, gaspillent ou dilapident moins les fonds de développement. On assiste à un bouleversement sans précédent, assure Catherine Marshall, responsable des programmes de la Banque mondiale pour l'Afrique sahélienne, ajoutant qu'une bonne centaine de pays bénéficient de projets divers visant à encourager les activités économiques des femmes. Cette politique ne provient pas tant d'une volonté de favoriser les femmes que d'un simple constat économique. Dans les pays en développement, ce sont les femmes qui travaillent le plus. Une étude récente de la Banque mondiale révélait que la moitié des familles rurales d'Afrique subsaharienne sont dirigées par des femmes. Une autre étude sur la vie d'un village camerounais montrait pour sa part que les femmes travaillent en moyenne 64 heures par semaine, soit deux fois plus que les hommes. En outre, l'argent qu'elles gagnent sert le plus souvent à couvrir les dépenses de santé et d'éducation des enfants et pas tellement à aller boire. Cette priorité accordée aux activités économiques des femmes rejoint l'intérêt croissant porté au financement des milliers de petites initiatives privées qui constituent l'immense secteur informel des pays en développement. Nombre de ces micro-entreprises, depuis les marchandes de quatre saisons jusqu'aux couturières indépendantes, sont tenues par des femmes. Malgré des statistiques très approximatives, on estime que dans beaucoup de pays en développement, le secteur informel absorbe jusqu'à la moitié de l'activité économique. Or, jusqu'à une période récente, les organismes internationaux distribuaient pratiquement tous les fonds de développement aux gouvernements et aux entreprises d'État pour des projets qui, dans bien des cas, ne bénéficiaient que marginalement aux couches les plus pauvres de la population. En Côte d'Ivoire, la Banque mondiale s'est rendue compte qu'un projet visant à introduire les nouvelles méthodes agricoles plus efficaces était géré par et pour des hommes, alors que ce sont surtout les femmes qui cultivent les terres. Elle a donc lancé un autre programme pour les femmes et a constaté que, contrairement aux hommes qui ne tenaient pas compte des nouvelles techniques, les agricultrices réagissent de façon extraordinaire et obtiennent des bien meilleurs rendements. Au Chili, la Banque interaméricaine de développement participe au financement de la banque Contigo avec toi, qui à son tour commandite des centaines de petites entreprises. Les femmes meilleures gestionnaires pour la plupart constituent la clientèle privilégiée, souligne le rapport de la Banque interaméricaine de développement. Dans le nord-est de la Thaïlande, l'UNIFEM, organe des Nations Unies, contribue au financement d'un établissement de crédit local qui accorde des prêts aux dirigeantes des petites filatures de soie. Selon ses défenseurs, ce programme évite aux jeunes femmes d'avoir à migrer vers le sud où elles tombent dans l'industrie du sexe. Plusieurs centaines de participantes ont assisté en Finlande à la conférence de la femme organisée par le Conseil des ministres nordiques. Elles ont conclu que les crises bancaires de ces dernières années auraient pu être évitées si des femmes avaient siégé au poste de direction. Ainsi, Mona Svan de l'Unibank a expliqué que les crises bancaires qui ont également frappé son pays auraient pu connaître une autre issue si des femmes avaient été aux affaires. Elle estime que les femmes sont généralement plus prudentes, ne se lancent pas dans des tentatives d'expansion effrénées, génératrices d'investissements non rentables. Pour Mona Svan, les femmes ne souffrent pas du syndrome de la quantité dont sont atteints nombre d'hommes. Nous ne sommes pas particulièrement intéressés par les investissements à risque. Selon les chiffres de l'association financière danoise, sur les 400 à 500 directeurs de banques recensés dans le pays, deux seulement sont des femmes. Dans les territoires occupés, l'autre intifada de Gaza. À Gaza, les femmes respirent mieux. Face aux Israéliens, le voile était une arme. Aujourd'hui, on peut s'habiller à sa guise. Boutiques de vêtements, de cosmétiques ont rouvert et la conscience féministe a surgi. Élément du code social austère observé durant le soulèvement contre l'occupation israélienne, le foulard est désormais rejeté par certaines femmes de Gaza. L'ambiance est plus détendue, les femmes jouissent d'une plus grande marge de manœuvre dans le choix de leurs vêtements. Pourtant, beaucoup se demandent si cela augure effectivement d'une avancée sur le terrain des droits et du statut social. Depuis la mise en place en juillet dernier d'une autorité palestinienne autonome à Gaza et dans la ville de Jéricho en Cisjordanie, les organisations de femmes ont accentué leur campagne pour l'égalité. Des femmes issues de différents groupes politiques associés pour appuyer leurs revendications auprès de l'autorité palestinienne naissante se sont adressées directement à Yasser Arafat, président de l'OLP. À l'issue d'une rencontre à Gaza en juillet, il s'est engagé à créer un comité aux affaires féminines responsable devant lui seul. Elles ont également rédigé un projet de loi pour le droit des femmes qu'elles voudraient voir intégrer dans la future constitution palestinienne. L'empressement avec lequel certaines femmes rejettent aujourd'hui le hijab, le voile, est peut-être la traduction symbolique la plus visible des changements en cours. Pendant le soulèvement, ce voile constitue à la fois un défi religieux à l'égard des autorités israéliennes, une marque de deuil pour les Palestiniens tués dans les affrontements de rue et une protection contre le harcèlement des soldats israéliens. À présent, les Israéliens sont partis des villes et des camps de réfugiés. Les policiers palestiniens patrouillent dans les rues. Les femmes, ayant délaissé le foulard, affirment ne plus craindre l'agression de ces militants islamiques qui lançaient des pierres, des œufs et parfois de la peinture sur celles qu'ils estimaient vêtues de manière indécente. Mais ces changements suffisent-ils ? Lorsqu'elles font le compte des gains enregistrés aujourd'hui et des reculs de la période de résistance contre Israël, les dirigeantes des groupes de femmes ne sont pas si sûres. Au début, disent-elles, la révolte a aidé les femmes en les faisant sortir de chez elles pour se joindre aux manifestants. Souvent, elles devaient prendre la tête de la famille ou d'un groupe politique lorsque les hommes étaient arrêtés ou tués, ce qui contribuait à éveiller leur conscience politique. Mais les comportements sociaux rigides qui leur furent imposés à mesure que se prolongeait la révolte ont eu des conséquences néfastes au-delà des stricts codes vestimentaires. Certaines étaient incitées à rester chez elles pour éviter d'être soupçonnées de promiscuité ou de collaboration avec les Israéliens sur leur lieu de travail. Des dizaines de femmes accusées d'avoir mouchardé des prostituées ont été exécutées. Des très jeunes filles furent mariées par leurs parents afin d'éviter les soupçons. Une dirigeante féministe du Khan Younis, dans le sud de la bande de Gaza, souligne que les groupes de femmes n'ont pas défendu leurs propres revendications durant la révolte. Les problèmes tels que la violence domestique ou la grave sous-rémunération des femmes qui avaient un emploi ont été négligés. Nous nous sommes concentrés sur les combats politiques plutôt que sur le problème des femmes, car nous pensons que nous devions axer nos énergies sur la difficulté principale, l'occupation, explique-t-elle. C'était une erreur. Aujourd'hui, nous avons compris que les libertés politiques et sociales étaient une seule et même chose, qu'elles allaient de pair. Au Bangladesh, Taslima Nasrin n'est pas seule. D'autres femmes au Bangladesh ont été ou sont sous le coup d'une sentence prononcée par l'autorité religieuse, des jugements qui ne sont pas exécutoires en principe. Beaucoup de Bangladaises en lutte contre ces fatwas. En mai 1993, une jeune femme condamnée par une sentence religieuse, une fatwa, est attachée à un piquet de bambou et brûlée. Son crime, elle avait quitté son mari pour un voisin. Un mois plus tard, une autre jeune fille est enterrée à mi-corps, sauvagement lapidée. Raison invoquée, le chef religieux du village avait rendu un jugement déclarant son mariage illégal. En fait, la raison, c'est que lui était amoureux et dépité qu'elle ne l'ait pas pris, lui, comme mari. Elle s'est suicidée le soir même. Une autre femme a reçu, elle, 100 coups de bâton parce qu'elle avait osé tenter de gagner sa vie en vendant des crevettes. Elle aussi s'est suicidée le soir même. Ces actes de sauvagerie religieuse se multiplient. Au cours des derniers mois, de nombreuses femmes du Bangladesh ont été brutalisées, humiliées, même conduites au suicide à la suite de la prolifération des fatwas prononcées à leur encontre. Depuis le déclenchement de l'affaire Taslima Nasrin, les jugements en attente ont atteint les coins les plus reculés du Bangladesh. Mais si les femmes sont de plus en plus visées, c'est aussi parce que les organisations non gouvernementales s'intéressent à leur sort et les encouragent à s'émanciper. Une de ces organisations, c'est la Bangladesh Rural Advancement Committee, qui a financé par des capitaux privés et qui gère plusieurs écoles qu'elle gère. Il y a environ 21 000 écoles gérées par cette BRAC dans le pays. Non seulement des parents ont été conduits à boycotter certaines écoles de la BRAC pour éviter une fatwa, mais en plus, 110 écoles d'entre elles ont été incendiées entre janvier et mars 1994. Le pire est sans doute l'apathie du gouvernement qui va même jusqu'à nier la réalité des outrages subis par les femmes du Bangladesh. Ces dernières ont décidé de réagir. 19 organisations de femmes ont réuni leurs efforts pour combattre la menace et éveiller la conscience de leurs consoeurs. La tâche qui les attend est immense, mais un pas est fait. En Suisse, s'est tenue à Bâle une table ronde sur les femmes et la mafia. Lundi dernier, le FRAP, le Parti des femmes de Bâle, ainsi que d'autres organisations de femmes telles que l'Association pour les droits des femmes, organisaient une table ronde autour de la question de l'opposition des femmes contre la mafia. Y était invitée une représentante du mouvement sicilien des femmes contre la mafia, architecte et professeure à Palerme, Petra Bonavita, sociologue allemande qui a publié un livre qui raconte comment les femmes de Sicile ont rompu la omerta, cette loi du silence, imposée par la mafia sous menace de mort. Du côté suisse, Carla Del Ponte, procureure fédérale, devait également participer, mais les femmes de la FRAP ont finalement décidé de retirer leur invitation parce que la présence de Carla Del Ponte, responsable de l'arrestation des 4 militants soupçonnés d'être des complices de Carlos à cette table ronde, allait forcément faire dévier la discussion sur cette arrestation arbitraire. Les organisatrices de la table ronde se sont d'ailleurs déclarées solidaires avec les mouvements de protestation contre la séquestration et l'arrestation de ces 4 militants. Autre femme suisse de cette table ronde, Masha Madurine, militante féministe engagée dans la lutte pour la défense du tiers-monde et active au sein du Conseil des femmes pour une politique étrangère. L'opposition ouverte des femmes contre la mafia a commencé quand la mafia s'est attaquée à la société civile et quand les victimes n'étaient plus juste des personnes tuées suite à des règlements de compte internes du clan mafieux. Une des premières femmes à collaborer avec la justice pour dénoncer les meurtres de la mafia appartenait au clan de la mafia et c'est parce qu'elle avait tout perdu qu'elle a osé faire le pas de violer l'omerta ou la loi du silence. En effet, les femmes des mafiosi sont là pour assurer le bien-être et la sécurité de leurs enfants et sont soumises à une obéissance stricte et patriarche mafieux. Elles savent que si elles refusent de jouer le rôle qui leur est assigné, elles peuvent tout perdre, même la vie. Dans les années 80, ce sont les femmes des magistrats ou policiers tombés sous les balles de la mafia qui ont repris le relais et se sont organisées pour dénoncer les agissements de la mafia. Ces femmes étaient aussi moins démunies que les femmes appartenant au clan car elles pouvaient bénéficier d'une rente de veuves de l'État et n'étaient pas dépendantes de la mafia pour leur survie. Elles se sont jointes d'autres femmes du clan et de la société civile. Pour les femmes contre la mafia, la lutte contre cette organisation est avant tout une lutte pour une autre culture, plus juste. Elles veulent combattre l'omerta qui traverse toute la société sicilienne et organisent dans les quartiers à risque, dans les écoles, des programmes d'éducation anti-mafia. Elles soutiennent les victimes de la mafia, publient avec des écoliers des journaux, financent des projets de femmes en Sicile. Dans la deuxième partie de la table ronde, il s'agissait de voir comment, ici en Suisse, on peut soutenir les luttes des femmes siciliennes en luttant contre les agissements de la mafia qui utilise la Suisse pour blanchir l'argent provenant notamment du trafic de la drogue. Dans son exposé, Masha Madurine a expliqué que suite à l'entrée de la mafia dans le commerce illégal de la drogue, elle brasse tellement d'argent qu'elle ne peut plus juste l'investir dans ses affaires illégales comme la prostitution et l'achat d'armes, mais que la mafia doit en blanchir de plus en plus. La Suisse a toujours été une place financière attractive pour blanchir l'argent sale. Après la révolution bolchevique, la Suisse a aidé le nouveau gouvernement à blanchir l'or confisqué. De même, pendant la Deuxième Guerre mondiale, la Suisse a aidé l'Allemagne à se ravitailler avec des matières premières indispensables pour son industrie d'armement et pour contourner ainsi le blocus des Alliés. Pour Masha Madurine, il s'agit, à l'instar des femmes siciliennes contre la mafia, en Suisse, de mener une lutte pour une nouvelle morale et une nouvelle culture. Pour elle, il existe en Suisse une discordance entre une morale petite bourgeoise qui véhicule dans la société des valeurs telles que l'amour, presque pathologique pour la propreté, l'honnêteté, le travail bien fait, la ponctualité, et l'omerta à la Suisse qui existe dans le monde des affaires. Les banques, les grandes multinationales gardent leurs secrets et veillent à ce que ni l'État ni la société civile viennent à poser trop de questions sur les affaires, pas toujours propres, qu'elles font aboutir. L'absence de Carla Del Ponte à cette table ronde n'a pas permis de savoir quelles étaient les mesures prises et prévues du côté des autorités pour lutter efficacement contre le crime organisé et n'a pas permis de confronter les avis des femmes engagées dans cette lutte avec une représentante de nos autorités. Et pour terminer notre cochon de la semaine, celui-ci nous l'adressons à la conseillère nationale Geneviève Aubry. Ah, celle-là, je l'adore. Elle est tellement bête. C'est bien d'avoir des gens aussi bêtes que c'est, comme ça, vraiment, on est presque assuré d'avoir des cochons presque toutes les semaines. Eh bien, cette Geneviève Aubry tire la sonnette d'alarme dans son bulletin L'Atout. Regardons, dit-elle, qui a poussé au sein de la drogue et nous verrons qu'il y a une chaîne au maillon solide à Zurich. Émilie Libéraire, socialiste, célibataire et sans enfant. À Berne, celle qui planifie la politique de la drogue et Madame Dreyfus, socialiste, célibataire, sans enfant. À Lausanne, où commencent à se former des scènes ouvertes de la drogue, c'est Yvette Yegui, socialiste, célibataire, sans enfant, qui imite les autres. Et voilà, vous avez tout compris. Qui c'est qui pousse à la drogue? Les femmes, socialistes, célibataires et sans enfant. Allez, Madame Geneviève Aubry, continuez à nous faire rigoler. Vous méritez un joli chapeau du cochon. J'aimerais juste terminer ces nouvelles en vous donnant quelques rendez-vous. Premièrement, vous dire que l'Association des femmes en noir continue ses manifestations et la prochaine manifestation a lieu le jeudi 3 novembre, c'est-à-dire demain, à 18h15, entre 18h15 et 18h45, à l'angle de la rue Servette, à l'avenue 20. Donc, vous venez habillés en noir, ces femmes en noir manifestent pour continuer à protester contre la guerre en ex-Yougoslavie. J'aimerais également vous parler d'une soirée qui aura lieu le vendredi 4 à la Maison des Femmes à Champelle. Belladonna 9CH, deux extraordinaires musiciennes tout-terrain au rock chaleureux, entrée 10 francs. C'est donc à 20h30, c'est une soirée rock avec les Belladonna. Qu'est-ce que je vous raconte? Juste encore un rassemblement. International antimilitariste dans la vallée d'Aspe, c'est dans les Pyrénées, pourquoi pas, allez-y, le 11, 12 et 13 novembre, contre toutes les armées qui ensanglantent et détruisent la planète, contre l'occupation militaire de la vallée. Vous savez que c'est un endroit où, depuis longtemps, les écologistes luttent contre l'implantation d'un tunnel. Voilà, c'est terminé. J'aimerais encore dire cette fois-ci au revoir à nos amis séquestrés par le ministère de la Confédération, par la police fédérale, et plus spécialement à notre ami détenu à la prison de Bois-Mermet. Bonsoir. À très bientôt, Marjolaine.
Alors Marjolaine va prendre la suite dans quelques instants.
Alors, on me dit que j'ai encore du temps. Alors, qu'est-ce que je vais vous raconter? Est-ce que ça vous intéresse, la religion? Bon, pas tellement. Mais il y a une question se pose, est-ce que la religion peut être un frein à l'égalité? Et deux jours de réflexion sont organisés sur ce thème à Lausanne, du 1er au 2 décembre 1994. C'est donc... La première journée, le jeudi 1er décembre, c'est en fait une journée plus globale sur le thème égalité homme-femme dans une perspective socio-historique, avec entre autres Martine Chaponnière, Anne-Marie Kepli, Roland Campiche. Ensuite, plus principalement le problème de la religion, légitimation religieuse de l'égalité et de l'inégalité. Ensuite, la répartition des tâches et de l'égalité dans les organisations religieuses. Et puis, la construction de l'identité religieuse et le thème du genre. Voilà, ça vous intéresse? Alors, si ça vous intéresse, vous nous téléphonez au 50 40 51 41 023 depuis Genève. Vous en saurez plus. Et puis, j'aimerais vous annoncer la sortie d'un petit journal méchant et joli, Niark Niark. C'est déjà le numéro 2. Violence policière, témoignage, racontage, contactez-nous. À bientôt.
Ne quittez pas l'écoute dans quelques instants la suite des programmes de Radio Pleine Lune.